buenos días, mi nombre es Susan Saavedra.
C'est pas du vent.
Buenos días, mi nombre es Hernán Castrillón.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Buenos días para todos. De antemano, muchas gracias por su participación en el evento.
C'est un fait. Depuis 2008, plus de la moitié des humains habitent en ville. Un phénomène croissant puisque selon l'ONU, 2 terriens sur 3 vivront en ville d'ici la moitié du siècle, voire avant. Et c'est l'Afrique subsaharienne qui devrait connaître le plus fort taux d'urbanisation dans les prochaines décennies. Mais comment vivons-nous et vivrons-nous dans ces villes qui doivent relever de multiples défis? La croissance démographique, la lutte contre la pollution et les changements climatiques, puisque si elles n'occupent que 2% de la surface terrestre, nos villes émettent au moins 70% des émissions de gaz à effet de serre mondial. C'est donc à cette échelle de territoire qu'il va falloir trouver des solutions. Ça valait bien une exposition. Mutations urbaines, la ville est à nous. C'est jusqu'au 5 mars à la Cité des Sciences et nous en parlons avec nos invités. Dominique Bottebol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe des expositions à la Cité des Sciences. À vos côtés, Anne Charré-Romperchet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de mission stratégique ville durable au ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer, et vous avez été membre du comité scientifique de cette exposition. Et par téléphone, Gilles Lantier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien directeur international de l'Institut d'aménagement d'urbanisme d'Île-de-France et auteur de « Comment vivrons-nous demain en ville ?» aux éditions Le Pommier. Alors, Dominique Bottebol, dès l'entrée de l'exposition à la Cité des Sciences, on est tout de suite plongé dans le bain, si je puis dire, plongé dans cette folie incroyable de la croissance des villes, puisqu'il y a 6 compteurs qui égrènent en temps réel l'évolution du nombre de citadins. Alors, c'est Asie en tête, hein, mais on voit qu'il y a un urbain de plus chaque seconde, c'est ça ?
Oui, enfin ça dépend de chaque continent a un nombre et en moyenne, oui. Mais ce qui est assez frappant, c'est la vitesse de défilement, d'accroissement, qui est très différente suivant les continents. Et en effet, les continents les plus importants, où la croissance est la plus importante, eh bien l'Afrique et l'Asie.
Et ensuite, cette exposition est organisée en 3 espaces qui montrent bien les enjeux des villes au XXIe siècle.
Voilà, exactement. Nous avons donc 3 espaces. Un premier qui s'appelle « Ville sous tension » et qui est un regard sur les différents défis, les différentes questions, notamment environnementales, bien sûr, auxquelles sont confrontées les villes du fait de cette croissance démographique très importante. La deuxième partie, c'est un spectacle de data visualisation qui s'appelle « Terre urbaine » et qui est un produit que nous avons développé tout spécialement avec des techniques de data visualisation très nouvelles et très originales.
Il y a quand même, je crois, 130 000 données
qui ont été compilées et se transforment en effets graphiques, si vous voulez, et qui traitent de différents domaines, l'urbanisation, la pollution. Alors on voit comme ça, à travers un panorama vraiment mondial, vous avez tous les continents représentés, toutes les villes pour lesquelles nous avons pu recueillir des données, et vous les voyez comparer comme ça, de manière graphique, et également la richesse et certains indicateurs de développement culturel des sociétés. Et ceci fait un spectacle qui est dans une salle à part. Et enfin, la troisième partie, dont le titre est « Devenir urbain », et là où on va montrer le foisonnement d'initiatives et d'innovations que l'on voit éclore face à ces défis.
Oui, alors c'est un tour d'horizon des innovations développées pour faciliter, sécuriser, oxygéner, partager, automiser les villes. Alors Anne Charré-Romperchet, on découvre dans cette exposition que les villes, surtout dans les pays en développement, deviennent énormes. Elles subissent à la fois la croissance démographique, on le disait, les défis écologiques et sanitaires. C'est un contexte inédit.
Je pense que c'est vraiment dans les villes du Sud que les choses se passent et que les villes, sont vraiment le lieu privilégié où on peut justement répondre à tous ces défis, parce que c'est, comme on le dit généralement, là où il y a le plus de pollution, là où il y a le plus de bruit, là où il y a le plus de circulation, là où les conditions de vie sont quelquefois les plus dures, mais en même temps, c'est là où il y a le plus de potentiel, en fait. Donc,
oui, mais cette notion d'immensité et de croissance très très forte, ça, c'est quand même assez inédit dans l'histoire de l'humanité.
C'est inédit et c'est... En fait, Ce qui est vraiment intéressant aujourd'hui, de manière globale sur les villes, c'est qu'à la fois, dans certains pays, vous avez des villes qui explosent, je pense notamment à des pays asiatiques ou à des pays africains, et puis dans d'autres parties du globe, vous avez des villes qui rétrécissent et des villes qui disparaissent, en fait. Et ce qui est aujourd'hui inédit, c'est le double phénomène, je dirais. C'est le fait que c'est ces inégalités qui se creusent entre des zones vraiment peuplées et qui vont se peupler encore plus, et puis d'autres zones, par exemple, je vais vous dire le Japon, par exemple, c'est vraiment terrible de voir aujourd'hui qu'il y a des villes du Japon qui sont en train de, ce qu'on dit, on dit qu'elles rétrécissent, c'est-à-dire que la population vieillit, les activités économiques partent, et c'est des villes qui n'ont plus de raison d'exister. Alors.
Donc Tokyo va perdre sa place de plus grande
Tokyo,
ville du monde.
Alors Tokyo peut-être pas, mais il y a d'autres villes du Japon qui sont moins importantes que Tokyo, qui ont déjà été confrontées à ce problème-là. Et dans l'exposition de la Cité des Sciences, un petit film sur Détroit qui montre justement comment Détroit, qui était vraiment très lié à l'industrie automobile, a été complètement détruit. La ville a été complètement détruite, je dirais, par la fermeture des usines d'industrie automobile. Et ce qui donne de l'espoir, c'est comment elle revit, en fait, aujourd'hui.
Oui, c'est vrai que c'est une ville très intéressante.
Voilà. Et l'environnement, l'écologie, est justement, c'est intéressant, l'environnement et l'écologie est vraiment justement un levier de renaissance de cette ville.
Et c'est vrai, dans de nombreuses villes, c'est un levier d'adaptation. Et c'est vrai que Gilles Antier, c'est quand même une urgence, hein, parce qu'il existe aujourd'hui, alors vous dites qu'il y a des villes qui disparaissent, mais il y a quand même 40 villes, je crois, de plus de 10 millions d'habitants aujourd'hui dans le monde, et le phénomène s'accélère.
Je dirais pas que le phénomène s'accélère, non, mais grosso modo, ça reste, oui, on reste aux alentours de 30 à 40 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants. Le recensement des plus une ville est grande, et en particulier plus elle se situe au sud, plus le recensement est illusoire. Ah, donc on fonctionne à quelques centaines de milliers près, etc. Donc bon, mais si vous voulez, le phénomène, il est à retenir effectivement à ce niveau-là. Comme le disait Anne, il y a des secteurs dans lesquels il y a des villes, des shrinking cities, des villes qui rétrécissent. Il y a des secteurs dans lesquels la croissance, c'est-à-dire essentiellement les villes du Nord, croissance démographique, croissance urbaine, est pas plate, mais quasiment. Et puis, ce qui se passe au sud, avec des variantes selon les continents, où il y a une croissance effectivement exponentielle.
Et puis se pose la question de la manière dont les villes peuvent répondre aux besoins de leur population dans ce contexte. Par exemple, pour les transports, hein, l'Organisation mondiale de la santé nous a récemment alerté sur le fait que plus de 80% des gens qui vivent dans les zones urbaines où la pollution atmosphérique est surveillée sont exposés à des niveaux de qualité de l'air qui ne respectent pas les limites fixées par l'OMS. Et c'est principalement dû aux voitures autour desquelles nos villes ont été construites. Même si en Europe, la vision de la voiture évolue depuis quelques temps, comme nous l'explique Frédéric Danhé, auteur de La fin du tout voiture chez Actes Sud.
On le voit à plusieurs faits. Le premier, depuis le début des années 2000, dans la plupart des grandes agglomérations occidentales, la part de marché, entre guillemets, de la voiture stagne et commence à baisser. Le kilométrage moyen commence à baisser. L'usage de la voiture commence à diminuer. Ensuite, dans les documents d'urbanisme en France, hein, qui ont été améliorée, reboostée par le Grenelle, la voiture est plus du tout prédominante. Les maires, les responsables d'agglomération ont le devoir, si ce n'est l'obligation, c'est presque écrit comme ça, de privilégier les transports publics et les modes doux. Ensuite, il y a l'arrivée dans la sphère médiatique de la question du coût de la voiture. C'était un coût que personne ne voyait, on considère que ce sont des frais généraux, hein, comme les frais de la maison. Or, on s'aperçoit que la voiture est un coût majeur, entre jusqu'à 40% du budget familial pour des pauvres qui habitent en périurbanité. Et puis, c'est tout simplement le ras-le-bol, l'engorgement des villes dont on commence à parler. Je voulais juste revenir sur un tout petit point sur l'imaginaire de la voiture. L'imaginaire reste fort. Néanmoins, les études sociologiques faites en Europe, moins aux États-Unis mais en Europe, montrent que la voiture n'est plus l'alpha-oméga de la représentation sociale chez les ados et les, entre guillemets, pré-adultes, ceux qui sont encore en fac. Ce qui compte pour eux, c'est l'existence sur les réseaux sociaux et les smartphones. Et pour des gamins qui sont nés en ville, qui ont été habitués dès le plus jeune âge au transport en commun, voire maintenant à l'autopartage, la voiture ne représente déjà plus. Il n'y a pas qu'en France, hein. C'est pareil au Danemark, c'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Angleterre. La voiture ne représente plus le moyen de transport monopolistique que nous avons connu à leur âge. Et ça, c'est quand même significatif. Et c'est significatif d'un changement d'état d'esprit, de l'image sociale qu'on a de la voiture.
Anne-Charion Perchet, comment est-ce que vous réagissez à ces propos de Frédéric Danhé.
Oh ben je partage complètement ce point de vue. Je pense que la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle des nouvelles formes de mobilité, en fait. C'est-à-dire qu'il faut moins raisonner, je dirais, en termes de transport et plus raisonner en termes de mobilité. C'est-à-dire que dans les pays du Nord, je dirais, je partage ce point de vue, que la voiture n'est plus du tout le standard de...
Mais est-ce que ce n'est pas une vision de pays riche, ça ?
C'est une vision de pays riche, d'autant plus que le problème, c'est que dans les pays du Sud, vous n'avez pas les réseaux de transport en commun que vous avez dans les pays du Nord. Donc, certes, la voiture représente encore un but de, je dirais, de montrer qu'on y est arrivé, si je puis dire, dans les pays du Sud. Mais les alternatives, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. C'est-à-dire que certaines grandes métropoles du Sud ont des métros, mais si vous allez dans des villes moyennes, que ce soit en Inde ou que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays du Sud, le système de... Vous avez des taxis collectifs, un peu système informel, mais sinon, c'est vraiment très difficile de se déplacer si vous n'avez pas de voiture. Donc ça pose quand même des questions de mobilité, justement.
Dominique Bodbol.
Oui, je voulais simplement dire que dans l'exposition, dans sa dernière partie, nous avons donc quatre villes exemplaires, et parmi elles, donc Copenhague, qui s'illustre, qui a été d'ailleurs élue ville la plus agréable du monde en 2013, et qui développe énormément, au moins pour les individuels, les pistes cyclables, le vélo, les parkings à vélo, toutes sortes de solutions qui tendent à diminuer considérablement l'utilisation de la voiture individuelle, je parle.
Gilles Antier, le transport, c'est un énorme enjeu hein, pour les villes.
Transport, c'est un énorme enjeu, et si vous voulez, j'écoutais. Bien sûr que je partage, par certains côtés au moins, les points de vue de ce qui a été exprimé avant, mais je crois que c'est vrai, il faut regarder quand même aussi une chose, c'est que tout ça est quand même bien, pas un luxe, mais du moins la possibilité qu'ont des villes du Nord, comme par exemple Copenhague, Berlin, qui font des choses très intéressantes aussi, de pouvoir développer des actions dites innovantes là-dedans. Mais vous avez Copenhague d'un côté, vous avez Mumbai de l'autre, vous avez Shanghai de l'autre, vous avez Jakarta en face. Et là-dedans, comme le disait Anne Chareron tout à l'heure, il y a peu ou pas de réseau de transport en commun. On se débrouille, c'est le règne de la débrouille à tous les étages, et le règne de la débrouille à tous les étages, il passe par une pollution effarante, par une circulation accidentogène de façon effarante aussi. Et puis voilà, oui, bien sûr, la voiture, ça diminue, mais et même d'ailleurs, l'idée de la voiture au Sud, elle diminue, mais quand vous avez des voitures qui sont totalement remplacées pendant quelques années par des motocyclettes, par des rickshaws à trois qui polluent tout ce qu'ils peuvent, etc., bah vous dites qu'effectivement, là, on est loin de la dentelle de Bruges qu'on fabrique dans telle ou telle ville du Nord. Donc il faut savoir quand même recaler l'un par rapport à l'autre.
Anne-Charlotte Perchet, vous vouliez réagir ?
Oui, je voulais réagir parce qu'on ne peut pas aujourd'hui penser la mobilité sans penser l'organisation urbaine. Une des raisons qui explique toutes les difficultés de transport qu'il y a, c'est le fait que les villes ont été souvent conçues avec des gens qui habitent de plus en plus loin parce que c'est là où ils trouvent à vivre, que ce soit d'ailleurs dans les pays riches ou dans les pays pauvres, et puis des entreprises ou des activités qui ne sont pas du tout au même endroit.
L'augmentation de la distance domicile-travail.
Voilà. Donc le fait que les gens aient à se déplacer est un facteur en fait d'une mobilité accrue, et pour moi, en tant qu'urbaniste, je pense qu'on ne peut pas considérer les problèmes de mobilité sans les articuler, je dirais, avec des problèmes d'organisation urbaine. Le jour où on rapprochera les activités des lieux où les gens habitent, où on mettra en place des systèmes de télétravail, peut-être dans certains pays riches, c'est peut-être une façon aussi de résoudre les problèmes de transport et de mobilité.
Des questions, des réactions ? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI, nous parlons de la manière dont nous vivrons en ville demain à l'occasion de l'exposition de mutations urbaines qui se déroule jusqu'au 5 mars à la Cité des Sciences à Paris. Au-delà des mutations technologiques, on en a parlé un petit peu pour les transports, il y a aussi les mutations sociales. Exemple à Villeurbanne, près de Lyon, dans l'est de la France, où Pauline Moncor est allée à la rencontre des habitants du village vertical.
Je suis Antoine, je vis au village avec ma famille nombreuse, au deuxième étage. Et je fais partie de la petite équipe qui a démarré l'aventure du village vertical il y a 10 ans. L'idée de départ, c'est que quand on a une trentaine d'années, qu'on a une famille et qu'on veut la loger correctement au centre-ville, c'est extrêmement difficile. Donc soit on rentre en concurrence tous les uns avec les autres pour essayer de trouver le bon plan, soit on se groupe pour trouver une solution collective, hein, parce qu'on est plus fort ensemble. Quand on mutualise de l'espace, quand on mutualise des véhicules, quand on fait des achats groupés dans le voisinage, quand on s'échange des services, on a une qualité de vie qui augmente pour des prix qui sont faibles. Donc on peut minimiser notre impact sur le climat et les ressources naturelles et les ressources énergétiques sans sacrifier sur le bien-être. Au contraire, pouvoir acheter un certain nombre d'équipements parce qu'on va les partager avec ses voisins, c'est avoir l'usage d'un certain nombre d'équipements qu'on ne pourrait pas se payer individuellement.
Est-ce que du coup, vous pouvez établir un parallèle entre ce rapport que vous avez à la propriété collective et le rapport de responsabilité que vous avez vis-à-vis de la planète, de l'environnement ?
Alors, il n'est pas très difficile à comprendre ce rapport. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une sorte d'impasse planétaire sur la gestion des ressources et le vivre ensemble ? C'est l'accaparement par quelques-uns de la richesse. À partir du moment où on a compris et structurellement on a établi que le bien est collectif, du coup tout le monde fait attention à la préservation de ce bien, de ses richesses et de ses ressources. Voilà où est le vrai changement de mentalité.
Anne-Charion Perché, est-ce que l'avenir est dans ce type d'initiative, c'est-à-dire faire mieux ensemble, faire plus avec moins ?
Certainement, mais il n'y a pas une seule voie, je pense. Certainement qu'on voit d'ailleurs beaucoup d'initiatives, il y en a un certain nombre qui sont illustrées d'ailleurs dans l'exposition de la Cité des Sciences, où les gens se mettent ensemble pour faire des achats communs, effectivement, comme l'exemple que vous venez de montrer. Donc il y a effectivement une prise de conscience forte du fait que faire les choses ensemble, c'est beaucoup plus efficace que faire 1 plus 1 plus 1, c'est-à-dire qu'une addition de choses individuelles. Ça, je crois que tout le monde en est bien conscient. Maintenant, tout, ça ne marche pas partout, en fait. Et donc, et puis tout dépend aussi de l'environnement, je dirais, politico-socio-culturel dans lequel on est. Donc, si c'est une tendance qui est vraiment très portée par les habitants, on parle beaucoup des capabilités, c'est-à-dire des capacités d'agir des gens et qui se développent. Mais en même temps,
il y a besoin peut-être
d'avoir des choses plus institutionnelles. Vous parliez des transports, par exemple. Bon, je prends l'exemple de la Chine où les problèmes de pollution sont dans les villes chinoises sont énormes. Bon, si le gouvernement chinois ou les villes d'ailleurs ont mis en place tout un système de circulation alternée, ça ne peut venir que parce qu'il y a un gouvernement ou parce qu'il y a une puissance, je dirais, décisionnaire et institutionnelle derrière. Donc je crois qu'il faut balancer entre les deux. Voilà.
Dominique Baudebol, il y a beaucoup d'exemples justement d'actions collaboratives dans les villes au sein de l'exposition.
Oui, bien sûr, et de partage. C'est dans toute cette dernière partie devenir urbain, pleine de petits exemples locaux, mais aussi, comme dit Anne Charréron, c'est bien les deux. C'est bien aux deux niveaux, au niveau de la gouvernance de la ville et au niveau des initiatives locales. Et bon, je peux vous donner un exemple amusant qui est la boîte à récup, qui est quand même qui a été mise sur le parvis de la Cité des Sciences et qui est maintenant dans l'exposition et où chacun était invité à déposer des choses et venir les prendre. Enfin, c'est vraiment le partage. Alors, c'est un peu anecdotique, c'est petit, mais c'est l'état d'esprit qui illustre cet élément.
Gilles Antier, comment est-ce que vous voyez ce rapport entre ce que les gens sont capables de faire ensemble avec leur prise de conscience et puis la nécessité quand même d'une impulsion institutionnelle pour améliorer les conditions de vie dans ces villes ?
Les deux éléments sont là et comme le dit Anne, il faut le problème est de les connecter. C'est-à-dire que, bon, on va prendre un exemple concret avec des services urbains en matière d'eau, ou on pourrait le dire aussi d'électricité. Quand les gens se mettent ensemble en Afrique, dans un tel ou tel quartier de Johannesburg, pour réagir et trouver une alternative à ce que faisait et que proposait de manière classique un géant de ce secteur en disant, je vous apporte, je ne sais plus si c'était de l'eau ou de l'électricité, d'électricité, je crois, mais et puis vous payez une facture. Dans quoi ? Il y en a 90% des gens à la fin qui n'ont pas l'argent pour payer la facture. Et les gens en question se prennent par la main et disent « Mais si on avait des compteurs à prépaiement, on pourrait beaucoup mieux gérer notre maigre budget. » Donc c'est ce qui s'est passé, c'est des choses qui fonctionnent bien. Donc de plus en plus au Sud, on fonctionne sur des éléments de participation, d'association en amont des populations, et qui sont quelque chose de novateur et qui favorise beaucoup d'éléments extrêmement positifs dans les villes du Sud.
Il y a aussi la notion de tarification sociale.
Oui, une tarification sociale, faut pas oublier d'ailleurs qu'en plus, ça, cette idée qui était une idée du Sud, une pratique du Sud, avec la crise se répand au Nord. Hein, on en a des éléments, y compris sur des textes de loi récents, c'est-à-dire de faire payer effectivement des gens qui ont des revenus plus élevés, de leur faire payer plus cher la ressource. Ça peut être la ressource eau, ça peut être la ressource électricité ou autre, et de ce fait de dégager des fonds pour avoir subventionné des mètres cubes d'eau gratuits pour des gens qui sont plus démunis ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui sera amené certainement à se développer. Alors, il y a des façons de faire qui sont très variables. Hein. Par exemple, vous avez des villes en Amérique latine où il y a une taxe sur le téléphone portable qui va financer des éléments de péréquation pour l'eau ou pour l'électricité.
Alors, Anne-Charion Perchet, quand on parle de mutation des villes, on entend souvent le terme de ville intelligente, alors qui est un terme qui suscite aussi un peu de polémique. Qu'est-ce qu'on entend par là ?
Alors déjà, je vais vous dire une chose, c'est que moi, je n'aime pas ce terme de ville intelligente.
D'accord.
Parce que je pense que c'est l'intelligence des hommes et des femmes qui fait la ville. Ce n'est pas les technologies qui font l'intelligence, en fait. Donc je suis très, très critique vis-à-vis de ce terme de ville intelligente. À la limite, je préfère le mot anglais smart, même si...
Oui, mais nous sommes dans un média francophone.
Nous sommes dans un média francophone. En parlant de ville agile, alors, par exemple. Et donc, je crois qu'il faut, derrière, reprenons ce terme de ville intelligente, parce que c'est peut-être plus facile de parler français aujourd'hui. Mais donc, si vous voulez, il y a des visions de la ville intelligente qui sont celles qu'on a beaucoup médiatisées, comme Songdo en Corée, comme
des villes très techno,
avec des capteurs partout, avec des gens qui sont surveillés, un peu l'antithèse de ce que nous, on a envie des endroits où on a envie de vivre, en fait. Et puis, vous avez des villes qui ont saisi, en fait, l'outil technologique de la communication pour s'en servir, en fait, pour atteindre des objectifs qui sont ceux, par exemple, du développement durable, qui sont ceux qui permettent une meilleure gouvernance, une meilleure participation des habitants.
Ça se traduit comment, concrètement ?
Ça se traduit par le fait que, par exemple, si je prends les pays du Nord, par exemple, qui sont peut-être un peu plus en avance sur ces questions-là, vous avez des systèmes qui s'appellent du crowdsourcing, qui vous permet, à partir de votre téléphone portable, de pouvoir signaler directement aux services conséquents des problèmes d'éclairage public, ou qui vous permettent de participer à un débat sur l'avenir de tel ou tel quartier. Donc des gens qui ne se déplaceraient jamais pour venir à une réunion collective, le fait de pouvoir donner leur avis depuis leur téléphone portable ou sur le budget participatif par exemple, qui est une démarche qui a été menée dans plusieurs villes, non seulement françaises, mais d'ailleurs qui vient du Brésil, donc qui vient du Sud. Vous voyez, le média, c'est pas un média non plus, téléphone portable, c'est pas un média non plus hyper technique, qui est un média qui est développé partout. Bon, ça permet d'améliorer, en fait. L'idée vraiment, moi, que je mets en avant, c'est qu'il faut... Les technologies de communication sont des outils au service de quelque chose, en fait. Au service d'une meilleure gouvernance, au service d'une meilleure gestion des services urbains. Mais ce n'est pas une fin en soi, voilà.
Et la ville intelligente n'est pas une fin en soi. Ça peut permettre aux citoyens d'être plus acteurs de leur ville.
Ça peut permettre aux citoyens d'être plus acteurs de leur ville. Et ça peut permettre aux responsables des collectivités de gérer de manière plus efficacement, en fait, le transport, la mobilité, l'énergie, etc. En sachant qu'il faut faire très attention, qu'il faut mettre des garde-fous, que les données, c'est quelque chose qui a énormément de valeur aujourd'hui et qui doit être vraiment modéré et qu'il faut faire attention sur un certain nombre de choses.
Sachant, Gilles Antier, qu'il y a quand même beaucoup d'échanges entre les villes, beaucoup de réseaux de villes qui s'organisent dans le monde entier pour partager justement ces solutions. Ça, c'est aussi un phénomène qui prend de l'ampleur aujourd'hui.
C'est un phénomène qui a pris de l'ampleur avec le net, indubitablement. Et là aussi, pas forcément toujours sous les meilleurs aspects. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle en anglais les best practices, donc les bonnes pratiques, puisqu'on est sur une radio francophone.
Merci.
Et ces bonnes pratiques, le problème qu'il y a, oui, c'était une bonne pratique. Oui, c'était intéressant de faire savoir comment à Tunis on a fait telle chose en matière de transport, comment à Jakarta on a développé ceci ou cela en matière de résorption d'un bidonville ou autre. autre, je ne sais pas. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces bonnes pratiques, elles ont été et elles sont comprises par des locaux, hein, des gens qui accèdent à donner, comme une donnée, comme une recette de cuisine. Or, c'est là qu'est le drame, parce qu'il n'y a pas une ville qui ressemble à une autre. Et dès qu'il y a une ville qui ne ressemble pas à une autre, les problèmes ne peuvent pas être similaires. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'avec ces bonnes pratiques, on tend à se dire, tiens, ils ont fait ça à Tunis, Jakarta ou Papou, et je vais essayer de l'adapter chez moi, et ça va faire ça. Mais on le prend et c'est très limité comme élément. Alors ça peut être une illustration, ça peut être donner une idée, mais malheureusement c'est souvent pris comme une recette de cuisine. Et là on est dans le drame.
Enfin, on apprend quand même les uns des autres, Anne Charéron-Perchet, et c'est l'un des objectifs de cette exposition Mutations
Urbaines. Oui, je pense que moi, je ne partage pas tout à fait l'avis de Gilles Antier. Je pense qu'on apprend plus par ses pairs que par des approches top-down, c'est-à-dire et que notamment, si on parle de ce secteur de la ville intelligente, les entreprises du secteur, que ce soit Google, que ce soit des entreprises du BTP ou des services urbains, sont extrêmement... ont une offre très active, en fait, et savent très bien que c'est des marchés qui sont extrêmement porteurs. Donc, c'est plutôt par l'échange, je dirais, d'expérience, peut-être plus que de bonnes pratiques, que les gens qui doivent prendre des décisions peuvent acquérir les connaissances et être en mesure de pouvoir réagir face à cette offre très agressive, en fait, qui vient d'entreprises qui viennent de la communication ou d'ailleurs, et qui sont vraiment très aux aguets parce qu'elles savent que c'est les marchés de demain.
Alors justement, hein, on l'entend bien à travers cette émission, ce sont les marchés de demain, ce sont sans doute aussi les métiers de demain. Hein. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire dans les villes, dans nos villes, pour répondre aux défis du 21e siècle. On peut apprendre beaucoup de choses dans cette exposition Mutations Urbaines. C'est jusqu'au 5 mars à la Cité des Sciences à Paris. Et elle a aussi une déclinaison assez riche sur Internet. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Toutes les références sont sur la page de l'émission. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.